إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، الحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours en train de traiter Ghazwatu Khaybar. On a dit que c'est une grande bataille, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité de la trêve qu'il avait avec les Mécois pour punir la ville de Khaybar. Et cette ville-là était à l'origine d'une grande bataille entre les musulmans et les Mécois, quand Médine s'est fait encercler par 10 000 soldats. Qui était l'instigateur, qui a poussé à cette guerre-là? C'était les gens de Khaybar qui ont tout fait pour anéantir les musulmans. Alhamdulillah, Rabbi subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que Allah a dispersé cette armée-là. Il n'y a pas eu de guerre entre les musulmans et les 10 000 hommes qui sont venus pour anéantir les musulmans. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité de cette trêve qu'il a eue maintenant avec les Mécois, une trêve décidée pour 10 ans, pour aller punir les Khaybars. Deux mois après, il n'a pas attendu. Ça, c'est quelque chose d'important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a un objectif, il ne le retarde pas. Ce n'est pas demain et après demain. Non. Et on voit ça, subhanallah, durant 10 ans là, il a vécu 10 ans, il a tout changé. Pourquoi? Parce que sallallahu alayhi wa sallam, il avait des objectifs à réaliser, et à chaque fois, il réalise ses objectifs, et il ne retarde pas les actions, sallallahu alayhi wa sallam.
On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux hypocrites de partir avec lui pour cette bataille-là. Parce que les hypocrites ont voulu partir avec les musulmans, parce qu'ils savent que les musulmans étaient en position de force et que Khaybar c'est une ville très 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 riche et qui aurait par la suite un butin très important. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي المشركين عنكم. رب سبحانه وتعالى dit وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. Quand? Ben c'est dans Khaybar, comme disent les savants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand cette bataille a commencé, on sait que Khaybar est une ville très très des forteresses. On a dit qu'il y en avait 8 forteresses, 8 petites villes, mais chaque ville elle est assiégée et bien armée et bien protégée. Donc il faut s'attaquer aux forteresses une par une. Et la première et la plus importante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé donc de commencer par celle de Na'im, la forteresse de Na'im, Hisnu Na'im. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, demain je vais donner l'étendard des musulmans à un homme qu'Allah aime et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aime. Et le lendemain matin, tous les compagnons étaient en train d'espérer d'être cette personne-là. Omar al-Khattab radiyallahu anhu, il disait que je regardais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dès que le prophète tourne la tête, je tourne la tête avec lui, comme ça il me voit, il me désigne comme le responsable. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, il est où Ali? Amenez-moi Ali. Ya Rasulallah, Ali il a une maladie, donc il n'arrive même pas à boire à cause du soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, amenez-le. Et il souffle dans ses yeux sallallahu alayhi wa sallam, il lui fait une invocation, et Ali lui-même il dit comme si j'avais absolument rien. Il commence et après il lui donne Ar-Raya. Et on a dit, Ali a tué Marhab. Marhab c'est le soldat le plus important de Na'im, de Hisnu Na'im. C'était le chef et l'homme le plus fort. Ali l'a tué du premier coup. Et ça a donné les soldats de Na'im, les soldats non musulmans, était complètement anéanti de voir que Ali radiallahu anhu a tué Marhab du premier coup. C'était quelque chose. خرج بعدها ياسر أخو مرحب. مرحب, il avait un frère qui s'appelait ياسر. Il voulait venger son frère. قال من يبارز فخرج إليه الزبير. الزبير ابن العوام فقالت صفية أمه يا رسول الله يقتل ابني. قال بل ابنك يقتله فقتله الزبير. Donc الزبير ابن العوام, sa maman c'est qui? Safiya, la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zubayr c'était sa maman c'est khalatu rasulillah, ammatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était le fils de sa tante directement, Zubayr ibn al-Awwam. Quand elle a vu son fils sortir, Yasser c'était aussi un grand combattant, elle a eu peur, elle dit il va tuer mon fils. Il dit non, c'est ton fils qui va le tuer. Et Zubayr a tué Yasser. Yasser donc c'est un des responsables de la forteresse de Na'im, donc un juif comme les autres. ودار القتال المرير حول حصن نعيم. Après une grande bataille a commencé parce que il y a eu l'attaque généralisée, et après subhanallah, Rabbi subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux musulmans qui ont pris la première forteresse de Na'im. Et les musulmans donc sont rentrés à l'intérieur de la forteresse et ils ont gagné cette première manche de cette grande bataille. Et après vous avez le deuxième hisn, c'est As-Sa'b ibn Mu'adh. Deuxième forteresse, elle s'appelle As-Sa'b ibn Mu'adh. Les historiens disent que c'était pratiquement la même forteresse, très bien organisée, très bien protégée. Et donc les musulmans ont commencé à s'attaquer, et le chef de cette deuxième partie c'était Al-Hubab ibn al-Mundhir al-Ansari. Ali ibn Abi Talib, c'était le chef général de l'armée. Maintenant, Al-Hubab ibn al-Mundhir, c'est lui qui était à la tête de la deuxième expédition, on va dire, pour Hisn al-Sa'd. Al-Hubab ibn al-Mundhir, je vous ai raconté son histoire. C'est ce Hubab-là qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la bataille de Badr. Souvenez-vous de la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à un endroit. Hubab, c'était un stratège de guerre, il a fait énormément de guerres, c'était un Médinois. Les Médinois sont connus par la guerre, parce qu'il y avait toujours la guerre. Donc il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, « Ya Rasulallah, tu t'es installé ici, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné ou est-ce que c'est la tactique de la guerre ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Non, c'est la tactique de la guerre, je me suis dit, ici c'est bien, on est... » Il dit, « Non, Ya Rasulallah, ne t'installe pas ici. Fais avancer l'armée musulmane. » Et il lui a donné un conseil stratégique, tactique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a exécuté l'ordre de Hubab ibn al-Mundhir. Il a dit, « Allez, levez-vous et on va suivre le conseil de Hubab ibn al-Mundhir. » C'était un grand guerrier et quelqu'un qui a une stratégie. Al-Hubab ibn al-Mundhir a assiégé 3 jours et 3 nuits la forteresse de As-Sa'ab ibn Mu'ad. Et au bout de 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains et a fait une invocation spéciale. Et subhanallah, grâce à l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce à la persévérance des compagnons qui n'ont pas lâché, Allah a permis l'acquisition de cette deuxième forteresse. Rawa ibn Ishaq, c'est un grand historien, il rapporte que بني سهم ابن أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء فقال اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا فغدا الناس ففتح الله عليهم حصن الصعب ابن معاذ وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. Donc c'était la forteresse qui contenait le plus de nourriture et le plus de stock, cette forteresse-là. Et donc, parce que les musulmans, beaucoup de musulmans avaient trop faim, ils n'avaient pas pour de quoi se nourrir, et donc ils sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là où le prophète a levé les mains, il dit اللهم إنك قد عرفت حالهم. Oh Allah, tu sais, tu connais leur situation mieux que nous. وأن ليست بهم قوة, ils ont aucune force pour eux. وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه, et moi je n'ai absolument rien à leur donner. فافتح عليهم, et Allah ouvre pour eux cette forteresse. Et Allah subhanahu wa ta'ala a tenu sa promesse comme toujours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, après avoir fait l'invocation, il dit maintenant attaquez, foncez. Et les musulmans ont fait al-hujum, on dit al-hujum, et il y a eu une guerre entre les musulmans et les juifs de cette forteresse. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire avant le coucher du soleil. Et les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur? Al-manjaniqat. Al-manjaniq, c'est quoi? C'est les catapultes pour pouvoir tirer. Donc ils ont trouvé à l'intérieur des catapultes pour tirer. Ils ont tiré plusieurs fois contre les musulmans. Donc à partir de ce moment-là, les musulmans ont appris l'utilisation des catapultes. Et dans l'avenir, parce que c'est ça, l'islam, c'est toujours quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le conseille. Il dit Al-hikmatu dhalatul mu'min, anna wajadaha fahuwa ahaqqun nasi biha. La sagesse, elle est ce que le musulman cherche. Là où il le trouve, là où il trouve la sagesse, ben, ça lui appartient. Ici, c'était quoi l'utilisation? C'était un outil, les catapultes, c'était un outil. Ben, les musulmans, à partir de Ghazwat Khaybar, ben, ils ont compris comment marchent les catapultes. Maintenant, ils commencent à produire eux-mêmes pour l'avenir, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'autres guerres dans l'avenir des musulmans par la suite. وروى ابن إسحاق أنه كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير parce qu'ils avaient tellement faim. Beaucoup de soldats musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié des ânes. Ils ont sacrifié des ânes. ذبحوا الحمير. الحمير c'est les ânes. Et ils ont commencé à préparer pour les faire cuire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: allez, jetez tout ça. Il est interdit pour les musulmans de manger la viande de l'hamir. Et de aussi d'utiliser même le lait de l'hamir, ce n'est pas autorisé. C'est pour ça que certains savants interdisent aussi, par exemple, du savon fait à base de lait d'ânesse. On n'a pas le droit de l'utiliser. D'accord? On n'a pas le droit de l'utiliser. Parfois, ici en France, ça se fait. Vous avez du savon qui est fait à la base du lait d'ânesse. Et donc, nous, musulmans, on ne doit pas l'utiliser, on ne doit pas l'acheter. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Même si vous avez certains savants qui disent si ce n'est pas la viande, on peut utiliser le reste, mais la majorité des savants musulmans interdisent tout ce qui est donc le lait, bien sûr la viande, ça c'est quelque chose qui est connu, la viande des ânes est interdite pour les musulmans. Et ça reste un sujet de divergence, mais je parle de l'avis de la majorité des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a vu préparer à manger, parce qu'ils n'avaient absolument rien, il a dit non, ne mangez pas et jetez tout ce que vous avez préparé. Et ça, c'est des hadiths authentiques. Par la suite, il y avait Qal'at al-Zubayr. Donc, une autre forteresse qui s'appelle Qal'at al-Zubayr. Donc, les gens, quand une forteresse est conquise par les musulmans, vous avez beaucoup de personnes qui vont quitter pour aller dans l'autre, pour s'abriter dans l'autre forteresse. Donc, les autres forteresses, ça contient plus d'hommes et de chevaux et de munitions. Et donc c'était aussi une grande forteresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté avec l'armée musulmane pendant 3 jours et 3 nuits, pareil que Hisn al-Sa'd. Faja'a rajulun min al-Yahoud. Un homme de cette tribu juive est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala ya Aba al-Qasim, إنك لو أقمت شهرا ما بال إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض. Même si tu restes ici un mois, ils vont pas céder. Ils ont la nourriture, ils ont beaucoup de nourriture et ils ont des puits creusés à l'intérieur dont ils peuvent boire et manger. Et même si tu restes un mois, tu n'auras pas cette forteresse. Donc, il lui dit que les puits étaient à l'extérieur de la forteresse et qu'il profitait de la nuit pour sortir, s'abreuver et prendre l'eau et rentrer. Et il lui dit donc, si tu coupes le lien, tu surveilles la nuit, tu pourras donc les empêcher de boire de l'eau et ainsi tu auras la vie. Donc, le soir, ils sont sortis pour aller chercher l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une brigade. Et donc, il y a eu beaucoup de morts musulmans, parce que les autres, ils ont combattu. Et ils ont eu donc la ville par la suite, grâce à cette stratégie. D'accord ? Qal'atu Ubay. Donc, les musulmans ont eu Qal'atu Ubay. Qal'atu, je ne vais pas détailler toutes les... Qal'atu An-Nizar. La deuxième partie de Khaybar. Donc les musulmans ont eu cette bataille de Khaybar d'une manière très très rapide, deux semaines, et les musulmans donc, ont eu cette bataille. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ibn Abi al-Huqayr, les gens de cette ville-là, de Khaybar, ont envoyé un homme qui s'appelait Ibn Abi al-Huqayr ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, va lui parler, parce que c'était les dernières forteresses قال نعم فنزل وصالحه على حقن دماء من فيهم من حصونهم من المقاتلة. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la promesse de ne tuer personne s'il cède et qu'il donne la vie, de ne tuer personne. Et que par contre, le prophète a exigé qu'ils sortent de Khaybar et qu'ils aillent ailleurs. Ils ne doivent pas prendre avec eux ni or ni argent et partir avec le minimum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc fait cette alliance ou ce contrat avec eux. Et après, Ibn Abi al-Huqayq, il y avait donc cette trêve-là, ou ce contrat-là entre les musulmans et Ibn Abi al-Huqayq, qui était un homme pervers. Donc, c'était un homme très très riche. Et en quittant la ville, il a pris avec lui, en réalité, il a dissimulé énormément d'argent et énormément d'or avec lui pour les amener avec lui. قال ابن إسحاق وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة الربيع وكان عنده كنز بني النضير فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه فأتى رجل من اليهود فقال إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غدات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك قال نعم فأمر بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه فدفعه إلى الزبير فكان الزبير رضي الله عنه يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه ثم دفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc cet homme-là qui était parmi les gens riches et qui cachait l'or et l'argent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'or et l'argent qu'il possédait. Et comme on a dit, Khaybar c'était une ville qui était très riche parce que tous les juifs de Médine, qui étaient avant à Médine, quand l'islam a commencé par prendre le pouvoir, ils ont quitté Médine pour aller s'installer à Khaybar. Et donc beaucoup, Khaybar est devenu encore plus riche. Et pendant cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec sa fille, la fille de Huyay ibn Akhtab. Donc sa fille faisait partie des captives de guerre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a libéré et il a demandé sa main. Et avant de demander sa main, il l'a appelée à l'islam. Et donc elle est devenue musulmane. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Safiya bintu Huyay ibn Akhtab. Et c'est une musulmane qui est devenue une mère, notre mère Safiya. Quand on dit Safiya, on dit radiallahu anha parce que c'était la fille d'un grand rabbin juif, donc elle était juive, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé sa main, et il l'a appelée à l'islam, elle est devenue musulmane, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle. D'ailleurs, elle l'a vu en rêve, elle raconte elle-même un rêve qu'elle a réalisé, et le sens du rêve, c'est qu'elle a vu la lune descendre entre ses mains. Sa fille, quelques jours avant, elle a vu la lune descendre entre ses mains et elle a pris la lune entre ses mains. En réalité, cette lune-là, ça désigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, elle raconte cette histoire à son mari et son mari la frappe violemment. Son oncle ou son mari, ouais. L'un des deux. En tout cas, il l'a frappé, il lui a dit « Ah, tu as des ambitions, tu... » Parce qu'il savait que la ville était assiégée, et elle a fait le rêve à ce moment-là. Sa fille, c'est une femme qui habitait Médine. Et que c'est quand les Juifs ont quitté Médine pour aller s'installer à Khaybar avec son père Huyay ibn Akhtab. Subhanallah, tu dis خرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. Huyay ibn Akhtab, le père de Safiya. Safiya, on dit radiallahu anha, Ummul Mu'minin, n'est-ce pas? Huyay, c'était l'ennemi numéro un du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a tout fait pour assiéger Médine. C'est lui qui est parti à la Mecque pour eux. C'est lui qui a donné de l'argent à Ghatafan, les tribus, pour avoir des hommes pour attaquer Médine. Il a tout fait. Subhanallah. Et Allah décide que sa propre fille devienne musulmane et elle devienne la mère des croyants. Sa fille, Umm al-Mu'minin, radiallahu anha, qui est devenue parmi les femmes les plus nobles. Parce que sa fille, c'est une femme qui était vraiment spirituellement, vraiment très très, par rapport aux autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était d'une qualité, d'une très très grande qualité, même si toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient comme ça. Donc, le Bukhari rapporte que pendant cette bataille, il y a eu énormément de butins. C'est-à-dire les musulmans n'ont jamais eu autant d'or et d'argent et de butins de guerre que pendant cette bataille. Et c'est pour ça qu'Allah wa'adakum Allah maghanima kathiratan kathira. Allah lui-même dit dans le Coran maghanima kathira. قال ابن عمر ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. Il dit avant Khaybar, nous n'étions jamais rassasiés. On ne mangeait pas à notre faim. Mais quand on a conquis Khaybar, ben les musulmans sont devenus riches. وَمَرَوَتُ عَائِشَ وَمَرَوَهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ عَائِشَ قَالَتْ لَمَّا فُتْحَتْ خَيْبَرْ قُلْنَا الْآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ وَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ إِيَّاهَا مِنَ النَّخِيلِ حَتَّى صَارَ لَهُمْ بِخَيْبَرْ مَالٌ وَنَخِيلٌ. Donc ce qui s'est passé, c'est que les Muhajirines, les Mécois qui sont venus s'installer à Médine, les Médinois ont partagé avec eux leurs terres, n'est-ce pas? Mais quand Khaybar est devenu musulman, ben les Muhajirines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné des terres à Khaybar. Et c'était parmi les meilleures terres et les meilleures palmeries. Et quand les musulmans sont revenus à Médine après Khaybar, les Mécois ont rendu les terres que leurs frères médinois leur ont données auparavant. Parce que maintenant, alhamdoulilah, Allah leur a donné d'autres endroits. Et les musulmans, à chaque fois quand il y a une terre comme ça qui s'ouvre, ben les musulmans partent et s'installent. Ils s'installent là-bas. Beaucoup de sahabis, beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Khaybar est devenu musulman, beaucoup sont partis s'installer là-bas définitivement. Et pendant cette période-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à Khaybar, ben, qui va devenir Ja'far? Ja'far radiallahu anhu. Ja'far, c'est un... Il est parti de la Mecque parce que les musulmans étaient persécutés à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à 80 familles musulmanes de quitter la Mecque pour aller s'installer en Abyssinie, Al-Habasha, Ard al-Habasha, qui est aujourd'hui l'Éthiopie, Djibouti, toute cette partie-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné autorisation, même un ordre de quitter la Mecque pour aller vivre leur religion. Il leur a dit quelque chose, il leur a dit partez là-bas parce qu'il y a un roi juste chez qui vous pouvez pratiquer votre religion. Ils sont tous partis. Et Ja'far est resté depuis cette période-là jusqu'à la 7e année, Fathu Khaybar. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis Khaybar et il voit, hein, quelques jours après, Ja'far arriver avec sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envie de voir Ja'far, c'est son cousin direct. Ja'far, c'est le frère de Ali ibn Abi Talib. C'est Ja'far ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. donc c'était son cousin. Le prophète aimait énormément Ja'far. Et Ja'far a fait un travail extraordinaire. Parce qu'il a réussi, avec les autres compagnons, à maintenir la foi des musulmans. C'était une poignée de musulmans dans une société non musulmane, chrétienne, fervente. Et malgré tout, les musulmans sont restés unis et tous musulmans. Et en plus de ça, il a réussi à influencer même le roi de l'Abyssinie. Parce qu'à chaque fois qu'il l'invitait pour lui parler, ben le roi de l'Abyssinie est devenu musulman grâce aux efforts de Ja'far ibn Abi Talib et ce qu'il faisait toujours avec lui, les discussions qu'il avait souvent avec lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cette bataille, il reçoit Ja'far. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, il dit une parole. Il dit La adri bi ayyihima afrah, abi fathi khaybar, am bi qudumi Ja'far. La adri bi ayyihima afrah, abi fathi khaybar, am bi qudumi Ja'far. Je ne sais pas quel est l'événement le plus heureux qui me rend encore plus joyeux. Est-ce que c'est Fathu Khaybar? Est-ce que c'est la conquête de Khaybar? Ou l'arrivée de Ja'far? Khaybar, Ja'far Sarim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très content. Il compare l'arrivée de Ja'far à une grande conquête. Parce que Ja'far y avait une place très important dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala Abu Musa balaghana, Abu Musa fait partie de ces gens-là. Balaghana makhraja Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu bil Yaman. Donc les musulmans, quand ils ont quitté l'Éthiopie, ils ont traversé la mer et sont au Yémen, n'est-ce pas? En face c'est le Yémen. Donc l'un des musulmans, il raconte cette histoire-là. Il dit, nous avons entendu quand nous étions au Yémen que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Médine pour aller à Khaïba. D'accord ? Ana wa ikhwanu li fi bid'in wa khamsin rajulan min qawmi. Donc farakibna safinatan fa alqadna safinatuna ila an-Najashi bil Habasha. فَوَافَقَنَا جَعْفَرًا وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ. Donc, il y a deux choses. Il y a Ja'far et les musulmans qui étaient en Éthiopie, mais il y a aussi une tribu qui s'appelle Al-Ash'ariyoun. C'est des Yémanites. Et parmi Al-Ash'ariyoun, vous avez un compagnon que vous connaissez tous parce qu'il rapporte beaucoup de hadiths. C'est Abu Musa Al-Ash'ari. An Abi Musa Al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, quand est-ce qu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était cette année-là. Donc, il quitte le Yémen, il prend un bateau, et sur le chemin, il passe par l'Éthiopie, et sur le chemin, il trouve que les musulmans de Ja'far et ses compagnons, qui étaient en Éthiopie, veulent aussi venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont venus ensemble. La tribu Al-Ash'ariyoun, Al-Ash'ariyoun, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ja'far et ses amis, sont venus ensemble de l'Éthiopie jusqu'à Khaybar. Donc il dit فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَقِيمُوا مَعَنَا فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا فَوَفَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَتَحَ خَيْبًا. Il dit, nous sommes arrivés tous quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis Khaybar. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Ben, il leur a donné aussi du butin de guerre de Khaybar. Et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam auparavant n'a donné d'un butin de guerre pour quelqu'un qui n'a pas participé à la guerre. La règle avant même l'islam, c'est que quelqu'un participe à une bataille, il a le droit d'avoir le butin, une part de butin de cette bataille. Mais s'il ne participe pas, il n'a pas le droit. La première fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam change les règles, et les gens qui sont arrivés par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné par rapport à leur immigration, par rapport à leur sacrifice. Et c'est parce que aussi, Khaybar était un gain qui était au-delà de tout ce qu'on peut penser. D'accord ? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais donné de butin que pour le bateau de Ja'far et de ses compagnons. Donc, Safiya était, comme je viens de le dire, son mari a été tué. Son mari s'appelait Kinana ibn Abi al-Huqayb. Parce que il a été tué pendant la guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné sa fille. Dans un premier temps, sa fille était destinée à un compagnon qui s'appelait Dihya, Dihyatul Kalbi. Dihya Kalbi, je vous ai raconté son histoire. Dihya Kalbi, c'est l'homme le plus beau de Médine. Et quand Jibril descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il prend l'apparence de Dihya Kalbi. Et Dihya, c'est aussi l'homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à un roi, le roi de l'Égypte à l'époque, pour avec la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc au début, sa fille devait être la femme de Dihya. Mais un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ya Rasulallah, cette femme ne doit pas être la femme de quelqu'un d'autre que toi. Pourquoi? Il dit: ya Nabi Allah,
son père, c'est un chef de...
Voilà, exactement. Son chef, donc il va dire, donc ça doit être un juif converti à l'islam qui connaissait très bien, comme je vous ai dit, il y a énormément de juifs de Midi qui sont devenus musulmans. Cette femme n'est pas n'importe quelle femme, ya Rasulallah. C'est Sayyidatu Bani Qurayza, c'est la femme la plus honorable de Bani Qurayza. Qurayza, c'est une grande tribu. La tasluhu illa lak. Il ne sied que cette femme se marie avec quelqu'un d'autre que toi, ya Rasulallah. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Dihya, et Dihya a accepté volontiers. Donc, il a pris une autre épouse et a accepté que sa fille devienne la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a proposé l'islam. Avant même de se marier avec elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a proposé l'islam. C'était une femme très sage. On va voir à travers le rêve. Et c'est une femme qui a vécu toute sa vie à Médine. Donc c'était un arabophone plus que... C'était médinoise. Les juifs de Médine étaient des médinois. Fa'ataqaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné sa liberté et sa dot. C'était sa liberté. D'accord ? Sa dot, c'était sa liberté. Quand elle a demandé une dot, le prophète lui a rien donné parce que sa liberté en soi, c'était une dot pour elle. فَاَعْتَقَهَا وَتَزَوُجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. Il a fait que le fait qu'elle devienne libre, c'est ça, la dot. حَتَّى إِذَا كَانَ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle et il est devenu sa femme, sa fille, radiallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il s'est marié avec elle, il voit sur son visage un hématome, quelque chose que... On sait que... Le prophète a compris, quelqu'un l'a frappé. Cette femme-là, quelqu'un l'a frappé. Il lui demande pourquoi. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as l'œil de cette manière-là? Elle lui raconte l'histoire. Elle dit, Ra'aytu ya Rasulallah. Ra'aytu qabla qudumik. Juste avant que tu arrives, j'ai vu comme la lune qui s'est déplacée et elle tombe dans mes mains, entre mes mains. La lune tombe entre mes mains. Et Wallahi, je n'étais pas du tout au courant que tu es sorti ou que je ne savais rien de toi. D'accord ? Faqasastuha ala zawji. Kinan, l'homme qui était pervers, son mari. Elle lui raconte cette histoire, qu'elle a vu la lune descendre, bouger, descendre, et elle se met entre ses mains. فَقَصَصْتُهَا عَلَى زَوْجِي فَلَطَمَ وَجْهِي. Dès que je lui ai raconté cette histoire, moi je ne comprenais rien, absolument rien. Ben, il me donne un coup sur mon visage et c'est là la trace de son coup. فَقَالَ تَمَنَّيْنَ هَذَا الْمَلِكَ الَّذِي فِي الْمَدِينَةِ. Tu veux épouser, lui il a tout compris. Je ne sais pas pourquoi, mais il a compris que ce rêve-là désigne que elle deviendra la femme de ce roi. Pour lui, c'est le roi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de midi. Tamannayn. Et c'est pendant cette bataille-là, après cette bataille, que une femme juive va inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un repas. Je vous ai déjà raconté cette histoire l'année dernière, donc on va la raconter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est installé à Khaybar, pour quelques jours bien sûr. Zaynab bint al-Harith, c'est la femme de Salam ibn Mushkim, c'est une personnalité juive de cette ville qui a été tuée. Donc elle invite le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle demande quel est le côté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préfère de la viande. On lui dit al-katif, l'épaule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime l'épaule plus que il mange. Quand il mange d'un mouton, il mange notamment, il aime la partie, l'épaule du mouton. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre la somme dans toutes les parties, mais notamment elle va bien doser des côtés des épaules. Elle va bien doser du venin très fort. D'accord? Donc elle amène la chatte bien préparée, bien devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence avec tous ses compagnons, il commence à manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris juste la première bouchée, il mange la première bouchée et il s'arrête. Alors que certains compagnons ont déjà mangé. Beaucoup, ils ont commencé, ils avaient faim, ils ont commencé à manger, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend une bouchée, la première, il mange, il s'arrête, sallallahu alayhi wa sallam. Il la jette, cette bouchée-là, il dit, inna hadha al-'ard, les os de cet animal me préviennent qu'ils ont été empoisonnés. Les os m'ont informé qu'ils ont été empoisonnés. Même chette, elle est morte, elle est prête, elle est cuite, et elle informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle a été empoisonnée. Thumma da'a. Donc, par contre, certains compagnons ont tellement mangé qu'ils sont tombés tout de suite. Certains parmi eux, il y en a un qui est mort parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les autres, ils ont mangé un peu, ils ont rejeté tout, donc ils ont eu la vie sauve, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mangé, il a juste... Mais d'après certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam après il trouvait à chaque fois, par la suite, il trouvait quelque chose, un mal qui le touche, il dit ça, c'est les traces ou les restes de ce que j'ai mangé lors, parce qu'elle avait un venin et quelque chose de très très fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé. Et on dit même que jusqu'à sa mort, il se plaignait, sallallahu alayhi wa sallam, des traces de ce venin. Il appelle, il lui dit, qu'est-ce que tu as mis ici? Il y a des gens qui sont morts, elle ne peut pas nier. Il lui dit, oui, je l'ai fait. C'est moi qui ai fait, je sais. Je voulais te tester. Regardez la technique, subhanallah. Elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je me suis dit, si c'est un prophète, Allah le sauve, parce que c'est un prophète. Je voulais tester, est-ce que tu étais le vrai prophète ou pas? Donc, je me suis dit, si c'est un prophète, Allah l'informera, il sera sauvé par Allah. Et si c'était un menteur, c'est un menteur de moi. Vous voyez un peu la stratégie qu'elle avait. Donc, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien trouvé. Il n'a pas pu la punir. Parce que sa stratégie... Maintenant, vous avez deux versions. Certains savants, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi, le venin ne m'a pas touché. Mais vous avez un compagnon qui est mort, quelqu'un qui est mort. Je donne la responsabilité à sa famille. sa famille décide. Donc, il y a deux versions. Il y a une version, les historiens ne sont pas d'accord, il y a une version qui dit que la famille a exigé qu'elle soit tuée et cette femme a été tuée parce qu'elle a tué une personne, et d'autres disent non, la famille a pardonné et que cette femme a eu la vie sauve. Wallahu a'lam. قالت إن كنت ملكا استرحت منه وإن كنت نبيا فسيخبر فتجاوز عنه. Prophète lui a pardonné. Donc, par contre, Al-Bara ibn Ma'roub, c'est un compagnon qui a mangé plus qui est mort. واختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلها. Donc, الروايات, les versions ne sont pas d'accord. Certaines disent qu'on l'a tué parce qu'elle a tué Al-Bara ibn Ma'roub. D'autres disent qu'on lui a pardonné. Donc, combien de musulmans sont morts pendant cette bataille? 16 hommes ont été tués. 4 muhajirin, 4 muhajirin, et les autres sont des ansars. Donc 12 ansars et 4 muhajirin. Il y a une autre version qui dit qu'ils étaient 18. Les musulmans qui sont morts pendant cette bataille. D'accord ? Y compris celui qui a été tué en mangeant la viande masmouma. D'accord ? Et parmi les juifs de Khaïba, combien de morts ? 93. 93 morts pendant cette bataille. Regardez, aujourd'hui il y a une seule bombe, on jette une seule bombe et ça tue 400 personnes. On a toute une bataille pendant 3 semaines, vous savez combien ? 18 martyrs musulmans et 93. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour tuer les gens. Ceux qui ont été tués, c'est ceux qui ont combattu et qui n'ont pas cédé. Tout simplement. Alors que les gens qui n'ont pas combattu les musulmans ne sont pas allés les chercher pour les tuer. L'objectif, ce n'est pas de tuer. Toute une ville qui contient 8 forteresses, 93 hommes qui ont été tués. Aujourd'hui, un seul drone peut tuer je ne sais pas combien de personnes. Alors, regardez, Gaza chaque jour, aujourd'hui, ils sont en train de tuer tous les jours. Plus de 60 000 morts depuis le 7 octobre. 60 000. Donc, vous avez...
Dépasse,
bien sûr. Ça, c'est, on va dire, les chiffres officiels.
Dépasse sur les 70.
Oui, 70.
Dépasse.
Mmh. Bien sûr. Donc voilà les chiffres de cette... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu donc à Médine. Et il a été accueilli par les musulmans. En revenant à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le chemin, les musulmans étaient très fatigués. Une nuit, il dit à Bilal, parce qu'ils ont trop marché, il dit à Bilal, et à Bilal, c'est toi le responsable pour nous réveiller. Tu as la responsabilité de nous réveiller. Et Bilal avait l'habitude de se réveiller tout le temps pour le fajr. Subhanallah, Bilal c'est le mu'adhdhin. Cette nuit-là, subhanallah, Bilal a dormi, il était tellement fatigué, et les musulmans, toute l'armée musulmane, tous les musulmans, aucun ne s'est réveillé pour salat al-fajr. Jusqu'à ce que le soleil se lève, ils ont été réveillés par la chaleur. Même Bilal ne s'est pas réveillé, subhanallah. Donc, Bilal il est mort, il était endormi, il avait la tête sur sa chamelle, donc il n'était même pas allongé. Donc, en réalité, c'est Allah qui a voulu que ça soit un cas pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend notre religion et comment on doit rattraper les prières quand le soleil se lève.
Bien sûr. Il a pris celle-là الصبح هي بخيص الله والفجر.
نعم.
وعلاش احنا كي يقوموا معناها نصليوا الفجر بعد بخيص صلي الصبح.
هو العلماء que disent les ulama par exemple quand tu te lèves avant que le soleil se lève, avant tu as le temps de faire le fajr et après de faire as-subh. Le fajr dans le langage maghrébin c'est la prière surérogatoire, as-subh c'est la prière obligatoire. Dans le langage syrien, les palestiniens, les syriens, les saoudiens, si tu lui dis le fajr, pour lui c'est ça l'obligatoire. Donc vous voyez un peu le pour eux, l'obligatoire, c'est Salat al-Fajr, c'est la prière obligatoire. Et Subh, c'est la prière surérogatoire. Nous, c'est le contraire. Donc nous, quand on dit, j'ai fait Subh, j'ai fait la prière obligatoire, celle qui est à voix haute. D'accord. Donc, quand tu te lèves, quand tu viens à la mosquée, par exemple, quand tu viens à la mosquée, ben, tu fais quelle prière avant? Tu fais le Fajr d'abord. D'accord. Tu fais la prière sur l'érogatoire, deux raka'a, qu'on dit aïe al-kafirin, qu'on dit Wallahu ahad, à voix basse. Et tu attends, et quand l'imam se lève, tu fais avec lui as-subh, n'est-ce pas? Imaginons que tu n'as pas fait la prière à la mosquée que tu as fait chez toi. Tu te lèves à Salat al-Fajr, et tu fais quelle prière la première? La surérogatoire ou l'obligatoire? Surérogatoire, à voix basse. Et après, salam, et après tu te lèves pour faire l'obligatoire. Très bien. Maintenant, imaginons que tu te lèves. Le soleil se lève à 6h50. Je dis ça comme ça. 6h50. Et tu te lèves à 6h40. Tu fais quelle prière en premier?
L'obligatoire.
L'obligatoire. Pourquoi tu fais la prière obligatoire? Parce que si tu retardes, tu risques. Si tu imagines que tu fais tes ablutions et tu fais la prière surérogatoire et après tu commences, ben, tu risques de que le temps sorte de la prière obligatoire. Donc tu commences par l'obligatoire. Et tu fais tes sbires, tu attends, quand le soleil se lève bien comme il faut, 20 minutes après, tu fais la prière surérogatoire par la suite. Tout simplement. Donc ça c'est ce qu'on doit faire. Si tu te lèves bien avant le fajr, avant le lever de soleil, tu fais toujours dans l'ordre. Maintenant, imaginons que quelqu'un s'est levé à 8h du matin. Et il n'a pas fait comme le cas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là en réalité, tu peux faire l'un ou l'autre. Tu peux faire la prière surérogatoire et la prière obligatoire après, parce que déjà tu es hors, tu es en avant. Tu es en train de rattraper une prière. Le temps de cette prière est déjà sorti, ça y est. Tu es en avant. Et ça c'est uniquement pour la personne qui ne pouvait pas faire la prière. Soit à cause de sommeil, soit à cause de quelque chose de... Elle ne peut pas faire autrement.
Exactement.
Ça c'est la première fois et la dernière. Donc il dit à Bilal, surveille. Et Bilal, donc il s'est endormi. فَلَمْ يَسْتَيْقِمْ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسِ. Dans la Sira et la Sunna, on a une seule fois dans sa vie, le prophète ne s'est pas levé pour Salat al-Fajr. Et on a une seule fois, il a retardé Salat al-Asr jusqu'à Salat al-Maghrib, à cause d'une guerre. Pendant la guerre, le prophète ne pouvait pas. C'était la guerre, pendant la guerre. La guerre était. Il n'a pas pu faire autrement. Et il a dit. Il a fait une invocation contre ces gens-là, il a dit, ils nous ont empêchés de faire la prière de l'Asr. C'était quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regretté énormément. Donc, حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ وَأَوَّلْ مَنْ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé le premier. ثُمَّ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي وَتَقَدَّمْ حَتَّى صَلَّ الْفَجْرَ بِالنَّاسِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort de cet endroit pour faire la prière dans un autre endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Wakhir Safar, au Rabi' al-Awwal. Donc, pratiquement, cette bataille a duré pratiquement un mois et quelques jours. Après, je voudrais commencer avec vous un événement important, c'est Fath Makkah, parce qu'on ne peut pas, aborder tous les sujets. Et moi, le sujet qui m'importe le plus, c'est Ghazwatu Fath Makkah. Ghazwat Khaybar, c'était important. Maintenant, il y a Ghazwat Mu'ta qui vient après, et Ghazwatu Fath Makkah. C'est parce qu'il y a énormément de leçons dans cette bataille-là, la conquête de la Mecque. Et j'aimerais bien m'arrêter sur plusieurs sujets sur cette conquête avant, inchallah, dans les semaines qui nous restent avant les vacances, bi'inillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, les musulmans ont fait une trêve avec les Mécois. Cette trêve-là devait durer 10 ans. Mais en réalité, cette trêve ne durera que 2 ans. Pendant ces 2 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait énormément de réalisations. Il a envoyé des lettres à tous les rois de l'époque. Il a conquis Khaïba. Il a envoyé une armée à Mu'ta. Mu'ta, c'est pour combattre les Romains. Donc, c'est la première bataille avec les Romains. Et par la suite, il y a eu la conquête de la Mecque. C'est-à-dire que la conquête de la Mecque, c'est quoi? C'est que les musulmans, maintenant, vont prendre la Mecque et la Mecque va devenir une ville musulmane, complètement. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Et ça, c'est Al-Fatih. On appelle ça Al-Fatih. Et Sourate Al-Fatih, Inna fatahna laka fathan mubina, a été révélée, pas pour ce Fatih-là, pour la trêve de Sulh Al-Hudaybiyya, n'est-ce pas? Maintenant, Fath Makkah, c'est, on appelle ça Al-Fatih Al-A'zam. Alladhi a'azza Allah bihi dinahu. C'est grâce à ce fath, Fath Makkah, qu'Allah a donné la victoire à son prophète, à ses soldats et aux gens de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à ce fath, il a pris la Mecque. La Mecque, c'est la ville sainte, c'est la ville de la foi, la ville de l'islam, c'est la ville de tous les prophètes. On dit que tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont fait le hajj, tous. Le hajj à la Mecque. Allah leur a ordonné de faire le hajj à la Mecque. Et tous les prophètes du monde, à un moment donné de leur vie, sont venus pour faire le hajj. Donc cet endroit-là, c'est l'endroit de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Kaaba, c'est Baytullah. Baytullah al-Haram. Donc, ce n'est pas concevable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meure sans que cette ville devienne musulmane. Et quand cette ville est devenue musulmane, ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait mourir. En réalité, c'était l'achèvement, c'était la victoire, la grande victoire. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est préparé petit à petit. Et 2 ans après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort parce qu'il a accompli son devoir. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était très important que les musulmans arrachent cette ville entre les mains des Quraychites et que cette ville devienne musulmane comme avant. Et qu'Allah débarrasse Al-Kaaba des 360 statues qui l'entourent. Les Arabes de la Mecque ont tellement introduit des choses dans la religion de Ibrahim que maintenant Al-Kaaba, au lieu qu'elle soit le sanctuaire de la foi et de l'unicité d'Allah, elle est devenue le sanctuaire de Shirk. 360 idoles à l'intérieur, à côté de la Kaaba. La Kaaba est devenue l'endroit de l'idolâtrie. Et donc c'était le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ça comme objectif. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que toute cette trêve-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réalisée, mais il avait un objectif, c'est que un jour, la Mecque doit devenir musulmane. Allah dit la uqsimu bihada al-balad wa anta hillum bihada al-balad wa walidin wa ma walad. La uqsimu bihada, c'est quel balad? Mecca. Cette sourate est mécoise. La uqsimu bihada al-balad Je jure par cette cité. Quand Allah jure par un endroit, par un objet, c'est pourquoi ? Pour lui donner de la valeur. Pour lui donner de la valeur. C'est-à-dire, Allah jure par cette cité parce que Allah, tu es, parce que Ya Muhammad, tu es dans cette cité. Il y a certains savants, ils disent, c'est-à-dire, et cette ville va devenir pour toi, hil, c'est-à-dire, tu peux mener une guerre pour un jour. Alors que la Mecque, c'était un endroit sacré. La Mecque, c'est haram. Baytullahi, al-haram. C'est quoi al-haram? Sacré. Tu ne peux pas. Allah lui dit hil, halal. C'est quoi? Halal, c'est le contraire de haram, n'est-ce pas? Un jour, dans ta vie, Rasulallah, tu auras cette ville autorisée. C'est-à-dire que tu peux porter les armes, mais pour un objectif noble. Un objectif qui va au-delà de porter les armes. يسألونك عن البيت الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله يسألونك عن البيت الحرام قتال فيه. On t'interroge concernant mener une guerre au sein de البيت الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. Mener une guerre au sein de Bayt al-Haram, kabir, c'est-à-dire énorme, c'est quelque chose à ne pas faire. Et après Allah dit wa ikhraju ahlihi minhu wa kufrun bihi wa ikhraju ahlihi minhu akbar 'inda Allah. Oui, la guerre dans la maison sainte, c'est kabir, mais il y a quelque chose qui est encore plus grave que ça, c'est d'adorer un autre qu'Allah au sein de cette même mosquée consacrée à l'unicité. Et le fait de sortir les gens qui croient de cet endroit pour les expulser ailleurs, akbaru inda Allah. Oui, il y a quelque chose qui est kabira, mais il y a quelque chose qui est akbar.
Kalimat
al-mu'min. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il regarde la Kaaba, il dit Wallahi, innaki inda Allah la'azima. Il parle à la Kaaba, il lui dit pour Allah, tu es pour Allah un sanctuaire, quelque chose d'énorme, sacré. Mais hurmatul mu'mini a'zamu mink. La sacralité d'un croyant, elle est plus importante que ta propre sacralité. Voyez comment. Donc, ici, à partir. Ici, à partir du moment. Et c'est pour ça que Fath Makkah, j'aimerais bien insister, ça va me prendre deux ou trois séances, Inch'Allah, jusqu'à la dernière, avant le 16, Inch'Allah. Parce que Fath Makkah, c'est vraiment un acte très très important. À partir de Fath Makkah, qu'est-ce qui se passe? Ben, tous les Arabes de l'Arabie, ils ont dit, mais c'est bon, il a gagné contre les Mécois, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وعليكم السلام. Voyez un peu le. Une minute. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.